VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 21 mai 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, 12 civils tués dans des circonstances toujours floues pendant le week-end à Boulékessi dans le nord.
Au Sénégal, la situation reste tendue dans les universités malgré le limogeage de hauts responsables de l'université où un étudiant a été tué mardi dernier.
En République démocratique du Congo, début ce lundi de la campagne de vaccination contre le virus Ebola.
La Chine et les États-Unis semblent être parvenus à un accord de principe pour réduire le déficit commercial américain.
Au Venezuela, Nicolas Maduro déclaré vainqueur de la présidentielle d'hier.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, au moins 12 civils ont été tués samedi dans la localité septentrionale de Boulékessi, près de la frontière burkinabé, après l'attaque sur un marché d'un militaire malien dans des circonstances qui restaient encore floues hier. Des détails avec Kassim Traoré.
Toute la nuit du dimanche 20 au lundi 21, ce sont des véhicules lourdement armés des militaires maliens qui ont passé par Bandiagara. Ils se dirigent vers Kourou. D'après nos informations, ce matin, 4 membres du gouvernement malien sont attendus à Kourou, histoire de parler de cette affaire qui a occasionné la mort d'au moins 12 civils. Alors que c'est dans cette même zone de Boulékessi au nord, près de la frontière Mali-Burkina, que la tension intercommunautaire reste vive. D'autres personnes disent aussi que ce sont des militaires du G5 Sahel qui ont occasionné la mort des 12 civils. Les responsables au niveau communautaire confirment la mort d'au moins 12 civils, même s'ils parlaient d'une vingtaine de victimes. Des vérifications et des enquêtes sont en cours sur les lieux, nous indique une autre source. En tout cas, plusieurs jeunes de Bandiagara ne sont pas d'accord. C'est pour cela qu'ils saluent la mission gouvernementale qui se rend ce matin à Kourou afin d'éclairer la situation. Une situation très confuse avec la création d'un nouveau mouvement d'autodéfense PEL dénommé l'Alliance pour le salut du Sahel. Son drapeau est les couleurs rouge et noir. Bandiagara, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Sénégal, la situation reste tendue dans les universités malgré l'interdiction du président de la République qui, samedi, a limogé deux hauts responsables de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Un étudiant y a été tué par balle mardi dernier. Correspondance de Sédina Abagay.
Les étudiants saint-louisiens ont finalement eu gain de cause. Le recteur de l'université Gaston Berger a été limogé par le président de la République. En plus de cette décision, le chef de l'État a mis fin aux fonctions du directeur du Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis. Le départ de ces deux responsables était au cœur des revendications des étudiants qui les accusent d'être à l'origine de la mort de leur camarade Fallou Sène. Le recteur avait réquisitionné les forces de l'ordre pour sécuriser les restaurants universitaires et ainsi mettre fin aux journées de restauration gratuites décrétées par les étudiants. S'en est suivi une confrontation contre les gendarmes qui a abouti à la mort par balle de l'étudiant Fallou Sène. Depuis ce drame, les universités publiques du pays sont en grève et les étudiants font face régulièrement aux forces de l'ordre. Les autorités espèrent que cette décision du président Macky Sall permettra d'apaiser la situation. Le ministre porte-parole du gouvernement a déclaré que ce sont des mesures conservatoires devant permettre aux étudiants de retourner dans les amphithéâtres. De leur côté, ces derniers exigent le départ du ministre de l'Enseignement supérieur pour reprendre les cours. Les étudiants ont d'ailleurs prévu une marche nationale ce jeudi à Dakar. Sédina Abagay pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, début ce lundi de la campagne de vaccination contre le virus Ebola, alors qu'une quarantaine de cas ont été recensés dans la province de l'Équateur, dont 25 décès. Le point avec Nicolas Pinault.
Oui, cette première campagne de vaccination va cibler environ 600 personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec la maladie dans l'Équateur, près de Mbandaka, en particulier à Bikoro, où la fièvre hémorragique s'est propagée depuis 10 jours. C'est le même vaccin du laboratoire Merck qui avait été utilisé lors de l'épidémie de fièvre hémorragique qui avait coûté la vie à 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Selon le gouvernement congolais, sont concernés en priorité le personnel de santé et ceux ayant eu des contacts avec les malades. Kinshasa affirme avoir déjà reçu 5400 doses du vaccin contre Ebola dans le cadre d'un plan de riposte contre, je cite, cette épidémie de portée nationale. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé considère que l'épidémie ne constitue pas une urgence de portée mondiale. Dans son dernier bilan épidémiologique, le gouvernement congolais faisait état d'une quarantaine de cas, dont 26 décès, un chiffre susceptible d'augmenter rapidement, d'autant que le virus Ebola a été signalé à Mbandaka, ville de plus d'un million d'habitants.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Chine et les États-Unis semblent être parvenus à un accord de principe pour réduire le déficit commercial américain. Les deux pays ont suspendu l'augmentation de leurs droits de douane respectifs, éloignant provisoirement le spectre d'une guerre commerciale. De nouveau, Nicolas Pinault.
Nous nous sommes mis d'accord sur un cadre, a déclaré hier le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin sur Fox News, évoquant un accord pour suspendre les tarifs pendant la mise en œuvre de ce cadre. Dans le même sens, le vice-premier ministre chinois Liu He, cité par l'agence Xinhua, avait annoncé que les deux parties ne s'engageront pas dans une guerre commerciale et n'augmenteront pas les droits de douane respectifs. Liu He, un proche du président Xi Jinping, était à Washington la semaine dernière pour trouver une issue au conflit commercial entre les deux premières puissances économiques de la planète. Ces déclarations tranchent après des mois de tensions entre les deux pays, le président américain fustigeant une relation commerciale déséquilibrée, constituant selon lui un danger pour les États-Unis. Donald Trump dénonçait en particulier le déficit des États-Unis avec la Chine, plus de 375 milliards de dollars en 2017, en raison selon lui de pratiques commerciales déloyales, de transferts de technologies forcées ou encore de vols de propriété intellectuelle des entreprises américaines. Depuis fin mars, la Chine était frappée par des droits de douane de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium. La Chine était également sous la menace de taxes sur 50 milliards de dollars de marchandises qui auraient pu être mises en œuvre dès demain.
Ici aux États-Unis, les Texans recueillis à l'église, unis au stade de baseball, ont exprimé hier leur tristesse et une forme de fatalisme. Deux jours après la mort de 8 élèves et de 2 enseignants, sous les balles d'un tireur adolescent dont les motifs restent flous, alors que les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi Dimitrios Pagourtsis est passé à l'acte, les premières funérailles ont eu lieu dimanche après-midi, près de Santa Fe, où s'est déroulé cet énième drame endeuillant une école américaine. Il s'agissait d'une cérémonie pour Sabika Sher, 17 ans, brillante élève pakistanaise qui participer à un échange scolaire.
Et ici à Washington, le président Donald Trump a annoncé qu'il va ordonner officiellement aujourd'hui une enquête sur les affirmations selon lesquelles un indicateur du FBI aurait infiltré ou surveillé à des fins politiques sa campagne électorale en 2016. Cette décision risque de créer une confrontation avec son ministère de la Justice dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Monsieur Trump a déclaré dans un tweet hier qu'il veut savoir si de telles demandes ont été formulées par des gens au sein de l'administration Obama. En réaction au tweet de Monsieur Trump, le département de la justice a déclaré hier soir qu'il va demander à son inspecteur général d'élargir son enquête actuelle sur les tables d'écoute pour y inclure la question soulevée par le président américain.
Plusieurs centaines d'Arabes israéliens ont manifesté dimanche soir à Haïfa, dans le nord d'Israël, dénonçant la guerre contre la bande de Gaza après la mort de plus de 60 Palestiniens tués par des soldats israéliens, a rapporté une journaliste de l'AFP. Au cri de « Abba l'occupation israélienne et halte au fascisme », les manifestants ont également dénoncé la répression exercée par la police qui a arrêté 19 personnes vendredi à Haïfa lors d'un précédent défilé organisé en solidarité avec les habitants de la bande de Gaza.
Le chef de la diplomatie iranienne, Javad Zarif, estime insuffisant le soutien politique de l'Europe pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien après le retrait des États-Unis si beaucoup de compagnies européennes mettaient fin à leurs investissements en Iran. L'UE doit faire des pas supplémentaires, selon lui. Avec la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire, les attentes de l'opinion publique iranienne concernant l'Union européenne ont augmenté. Et le soutien politique de l'UE à l'accord nucléaire n'est pas suffisant, a déclaré M. Zarif après une rencontre à Téhéran avec le commissaire européen à l'énergie. Face à la menace des États-Unis de réimposer des sanctions contre des compagnies européennes traitant avec l'Iran, plusieurs firmes étrangères ont déjà décidé de se retirer du pays.
Enfin, le président sortant du Venezuela, Nicolas Maduro, a été déclaré vainqueur du scrutin d'hier par l'autorité électorale, avec près de 70% des voix après le dépouillement de la totalité des bulletins de vote. Le taux de participation d'environ 46% est le plus faible de l'histoire du pays. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le Bénin recevra de la Banque mondiale 220 millions de dollars pour la construction de 270 nouveaux systèmes d'adduction d'eau et l'amélioration de 360 déjà existants. Plusieurs contrats seront aussi conclus avec des opérateurs régionaux. Seulement 30% de la population rurale a accès à l'eau courante contre 57% de la population urbaine. Avec ce financement, les autorités béninoises espèrent améliorer l'accès à l'eau à environ 1,6 million de personnes dans le milieu rural. Camerco a triplé son chiffre d'affaires entre les premiers trimestres 2017 et 2018. La compagnie aérienne publique camerounaise a enregistré plus de 6 milliards de francs CFA contre 2 milliards de francs CFA à la même période en 2017. Sur un peu plus d'un an, le nombre de vols de Camerco est passé de 70 à près de 150 par semaine. La Chine et les États-Unis sont parvenus à un accord de principe pour réduire le déficit commercial américain. Les deux pays ont suspendu l'augmentation de leurs droits de douane respectifs, ce qui éloigne le spectre d'une guerre commerciale. Pékin s'est engagé à augmenter considérablement ses achats de marchandises américaines et à ouvrir davantage son marché. Depuis fin mars, la Chine était frappée de droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Dès demain mardi, Washington visait à imposer 50 milliards de dollars sur d'autres marchandises du géant asiatique.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatin. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec les éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. On a joué ce week-end les matchs retour du deuxième tour.
Oui, et le Bénin a éliminé la Gambie, battu 2-1 à Banjul à l'aller. Les Écureuils juniors ont renversé la vapeur en s'imposant 2-0 à Cotonou. Auteur d'un doublé, Samson Akinsola aura été le héros de cette qualification. On écoute Valère Rondino, le sélectionneur du Bénin, qui nous parle de cette victoire.
Quel secret? Il n'y a pas de secret. J'ai juste parlé aux enfants, dites-leur qu'ils ont la qualité de faire, ils peuvent le faire. Et je suis satisfait, pourquoi pas.
Et pour la suite, qu'est-ce que vous comptez corriger?
J'ai des trucs à corriger, ça c'est personnel à moi, je n'ai pas besoin de le dire.
À l'instant, Valère Rondino, sélectionneur des Écureuils juniors du Bénin. Et pour avoir sa place en phase finale, le Bénin va affronter le Ghana, tombeur de l'Algérie.
Pour les autres résultats, ça passe aussi pour le Nigeria.
Après le match nul concédé à l'extérieur à l'aller, les Flag Eagles sont parvenus à se défaire de la Guinée-Bissau 1-0. Les Nigériens affronteront la Mauritanie au dernier tour de qualification. Les Mourabitounes ont écarté la Guinée à Conakry au tir au but. De son côté, le Congo a déroulé 3-0 face au Botswana après le 1-1 du match aller. Les Diables Rouges juniors joueront leur billet pour la phase finale face au Sénégal qui s'est qualifié au bout de suspense face à l'Égypte. 0-0 finale comme au match aller et 7 tirs au but à 6 pour les Lionceaux. Pas de souci également pour l'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana juniors n'ont fait qu'une bouchée du Mozambique 3-0 et croiseront au dernier tour le Malawi qui a créé la sensation en allant battre l'Angola 4-1 après avoir perdu 2-1 à domicile.
Élisée, le tenant du titre jouera le dernier tour qualificatif de cette compétition.
Effectivement Idrissa, la Zambie a géré son avantage de l'aller. La victoire au Rwanda 2-0 avec un match nul 1-1 à domicile. Qualification également du Mali. Déjà vainqueur 2-1 en Tanzanie à l'aller, les Aiglons se sont à nouveau imposés, cette fois sur le score de 4-1. Ils vont affronter au dernier tour le Cameroun. Ça passe aussi pour le Gabon. Malgré sa défaite de 2-0 en Côte d'Ivoire, les jeunes Pantels avaient déjà emporté 3-0 à l'aller. Ils seront opposés au Burkina Faso lors du dernier tour. Les Étalons juniors sont allés faire un bon résultat en Libye 3-3 après l'avoir emporté 3-1 à l'aller.
Football toujours, direction la RD Congo. Et on a eu droit hier au classico entre le TP Mazembe et l'ASV Club.
Les deux équipes se sont neutralisées à Lubumbashi, score 0-0 en match en retard de la 10e journée des playoffs. Avec ce nul, Mazembe compte 25 points et termine cette phase aller 2e derrière Sanga Balende 27 points. Actuellement 4e avec 17 points, la SV Club a encore 2 matchs à jouer. Et puis la NBA pour finir avec vous Idrissa. Le résultat du match numéro 3 de la finale de la conférence Ouest entre Golden State et Houston.
Golden State a repris l'avantage, 2-1 face à Houston hier, après sa large victoire, 126-85 dans le match numéro 3. Invaincus sur leur parquet depuis le début des playoffs, les Warriors ont écrasé les Rockets pour remporter leur 16e match d'affilée à domicile en phase finale.
VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Célébration de la fête nationale au Cameroun, VOA Afrique a appris de sources sécuritaires du Nord-Ouest que 3 assaillants qui tentaient d'empêcher le déroulement des festivités dans la région ont été abattus par les militaires camerounais à Batibo. C'est dans cette même localité qu'un sous-préfet avait été enlevé le 11 février dernier. En revanche, à Bamenda, une autre ville de la zone anglophone, un groupe de sécessionnistes a menacé de troubler la fête nationale et lancé un mot d'ordre de ville morte. Mais tout est resté calme hier, nous dit l'envoyé spécial de VOA Afrique à Bamenda, Emmanuel Juntap.
Les forces de défense et de sécurité du Cameroun sont sur le pied de guerre ce dimanche sur la place des fêtes de Bamenda. Et il faut montrer patte blanche pour y accéder. Dans le ciel, un drone survole de temps en temps la parade civile et militaire. Le contexte sécuritaire étant tendu autour de la 46e fête de l'unité nationale à Bamenda, certaines chaises sont restées sans occupants dans les tribunes. Mais pour le gouverneur du Nord-Ouest, l'essentiel est sauf à Bamenda. Adolphe Lélé Lafrique, gouverneur du Nord-Ouest.
Le Cameroun est debout, uni et indivisible. Et prête à bâtir une nation forte.
Avant le 20 mai, un mot d'ordre de ville morte a paralysé 5 jours durant les activités économiques à Bamenda. De Commercial Avenue, centre des affaires, en passant par le principal marché de Bamenda, le quartier Komkwem, ou encore le long des rues menant à Liberty Square, l'arrêt des activités a été effectif depuis le 15 mai. Félix Teché Yamoussa, habitant de Bamenda, et Pel Bismor, une commerçante dans la ville.
It is an order.
Cela a été ordonné par les anglophones. Il y a un leadership ici, mais le gouvernement ne veut pas le reconnaître. Il y a un leadership basé dans la diaspora.
S'ils pensent faire ville morte et je ne sais quoi, cela les regarde. Quant à moi, je suis dehors pour vendre.
Les sécessionnistes menacent les populations de Bamenda de représailles en cas de participation aux festivités du 20 mai. Le gouverneur du Nord-Ouest a quant à lui ordonné le couvre-feu dès 20h temps universel. Les populations n'en peuvent plus. Kleptus Agnès Motoya, président de la section RDPC de Mézam 1.
Nous prions tous pour la paix, nous prions pour le retour à la normale, nous prions pour que toutes les forces en présence donnent une chance à la paix afin que le Cameroun aille de l'avant.
L'unité nationale reste fragilisée au Cameroun au regard de la situation à Bamenda. Un avis que soutient Dr Nick Ngwanyam, directeur de l'Institut Saint-Louis.
L'unité nationale a un sens d'appartenance lorsqu'on se respecte mutuellement et on vit comme dans une même famille. Mais si vous voulez avoir l'unité nationale par la force, les gens vont la rejeter.
Pour les habitués de la fête de l'unité nationale, l'édition 2018 n'a pas connu l'engouement populaire à Bamenda. Après un an et demi de crise anglophone, les populations sont de plus en plus gagnées par la peur. Emmanuel Juluntap, VOA Afrique, envoyé spécial à Bamenda.
Au Tchad, c'est toujours l'attente, 9 mois après les promesses de 20 milliards de dollars faites à la table ronde de Paris par la communauté internationale. Le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad, un programme intégré au PND, appelle les bailleurs de fonds à tenir leurs promesses. De N'Djamena, André Kotmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
Le Tchad est le cinquième pays le plus vaste de l'Afrique. Le financement par le bailleur de son programme national de développement peut booster l'économie dans les pays du G5 Sahel en proie à la violence de tout genre. Pour Mathieu Bécan, expert au plaidoyer à la mobilisation des ressources du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive, le Tchad est le seul pays dans le Sahel qui ait mené des interventions directes dans la lutte contre le terrorisme et mérite d'être soutenu.
Le Tchad a eu un engagement et un volontarisme pour bannir l'insécurité sur son propre sol. C'est le seul îlot aujourd'hui dans la zone qui soit plus ou moins préservé. L'Alliance Sahel, qui est née plus ou moins du constat d'échec des interventions traditionnelles, comprend aujourd'hui qu'il faille véritablement faire du développement. Les Tchadiens l'ont fait et c'est un exemple aujourd'hui qui peut contaminer en fait l'ensemble de la sous-région. Et si les bailleurs peuvent véritablement se mettre ensemble pour faire quelque chose de cohérent, ça ne peut être que bénéfique pour cette grande bande très stratégique.
Jean-Marc Gravelny, responsable de l'unité de coordination de l'Alliance Sahel, une institution créée par plusieurs pays et institutions partenaires du Tchad, souligne pour sa part qu'il faut plutôt œuvrer pour la facilitation des promotions des initiatives privées à travers des microfinances pour améliorer les conditions de vie des populations frontalières du G5 Sahel, la réalisation des infrastructures de base s'impose, a-t-il dit.
Le bassin du lac Tchad, où il y a des gros enjeux en termes de sécurité, des actions doivent être conduites dans cette région-là, mais aussi dans les régions frontalières où le Tchad est confronté à la présence de réfugiés en grand nombre. L'Alliance peut mettre un accent particulier sur ces zones de grande fragilité, ces zones où le lien entre la sécurité et le développement est très important.
Tout en rappelant aux partenaires techniques et financiers d'honorer leur engagement, le ministre tchadien de l'économie, Issa Doubran, rassure déjà les donateurs de la bonne gestion de ces ressources.
Nous voudrions que l'aide qui va être donnée à ces pays serviront tout à fait à alimenter tous les réseaux de ceux qui en ont déjà, les élites qui ont des moyens de capter ces ressources-là. Il faut libérer les ressources sur le terrain. Que même celui qui n'a pas espoir, qui ne représente rien, devrait avoir la chance de sentir que le Tchad est son pays. Et c'est possible.
Selon les experts, ce qui a été dit à la table ronde de Paris a été peut-être mal articulé en termes de projets à financer. Mais aujourd'hui, le Padelfit définit véritablement une vraie vision de développement avec l'ensemble des partenaires. Il rassure que les futurs bénéficiaires font partie intégrante dans son élaboration qui donne le pouvoir financier aux populations rurales et non un projet sectoriel comme ça a été toujours le cas. Et donc il faut aller vite. André Kodumadingar Ndiamena, VOA Afrique.
Au Mali, le petit village de Kondougou, dans le cercle de Bandiagara, vient d'avoir des projets dans le cadre de la construction de la résilience. Grâce au Programme alimentaire mondial, le PAM, ce village a entre autres une cantine scolaire et un magasin de stockage d'oignons avec des équipements. Le directeur exécutif du PAM, en tournée en Afrique de l'Ouest, s'est rendu dans le village de Kondougou pour constater des visites, les réalisations qui doivent répondre aux besoins alimentaires urgents des populations rurales les plus vulnérables, tout en les aidant à bâtir durablement leur résilience. Reportage sur place de notre correspondant Kassim Traoré.
Situé à 17 km de Bandiagara ville, le village de Kodougou est déficitaire en terres cultivables comme tous les villages du plateau d'Ogon. Ici, les 9 à 10% de la terre ne sont pas cultivables. C'est pour cela qu'ils ont sollicité le programme alimentaire mondial PAM pour une assistance en résilience. Guindo Yaï Gire Tembeli, présidente des FAM.
La première activité, c'est la lutte contre l'érosion. Comment augmenter les terres cultivables? Comment réhabiliter les points d'eau? Faire des ronds, des réservoirs d'eau pour qu'on puisse, les villages puissent faire le maraîchage. C'est comment construire des magasins pour que les femmes puissent garder les produits locaux là. Comment faire les pistes? Parce que c'est un village qui est enclavé. Il faut faire les pistes parce que les productions doivent être écoulées. Donc tant qu'il n'y a pas de pistes, il y aura mévente ou bien il y aura bradage.
Assis sous un long hangar, les élèves de l'école de Kodougou ont fait une simulation de leur cantine scolaire à travers un plat de riz au gras. Hambo Djigiba, enseignante.
Grâce à la cantine scolaire, les élèves viennent, les parents inscrivent leurs élèves à l'école. Si tu as des enfants à l'école, les rations que tu prends à la maison, si c'est 1 kilo, tu diminues les demi-kilos. Donc tu consommes les demi-kilos. Les demi-kilos sont à réserver. C'est grâce à la cantine scolaire. Au moment où il n'y avait pas la cantine, vraiment les élèves ne venaient pas. Actuellement, il y a la cantine. S'ils viennent, ils ne retournent pas au village.
Observant de loin la fête au village, avec l'inauguration du magasin de stockage, les vieux Ousmane Tapili trouvent que les PAM peut mieux faire.
Quand il n'y a rien, c'est comme car
carburant. Hein. S'il n'y a pas de carburant, sa voiture, ça ne démarre pas. Il y a d'autres, même, ils viennent une semaine et ils se retournent. Il y a d'autres, même, qui sont venus le marier, même pas un mois, il est reparti. Bon, s'il est à côté, il ne peut rien faire. Bon, il faut qu'il sorte, aller en voiture pour faire un peu des choses, pour venir quelque chose, pour leur donner à manger.
Quant aux femmes, elles se réjouissent parce qu'elles ne seront plus obligées de vendre leurs oignons après la récolte. Elles pourront la chasser, la transformer et seront même capables d'en tirer un meilleur prix.
Pendant l'hivernage, c'est la culture du mil, la culture du riz également dans les bas-fonds, avec les barrages, avec les cônes maraîchers, ça veut dire des réservoirs d'eau. Donc les gens font du maraîchage pour supporter les déficits céréaliers qui est là. Sinon, la récolte de l'hivernage ne couvre que les 5 mois sur les 12 mois. Donc les 7 autres mois sont compensés par le produit du maraîchage. Parce que c'est grâce aux pommes qu'aujourd'hui, il y a eu la fixation de ces habitants dans leur village d'origine.
Le directeur exécutif du PAM était très content. Il a même esquissé quelques pas au rythme du tambour d'Ogon. David Besley.
Un projet comme celui-ci soutient la résilience et protège les communautés en cas de sécheresse. Si les gens d'ici n'ont pas d'espoir, c'est pourquoi des aménagements comme ceci, le barrage, travailler avec les communautés, leur permet d'envisager que maintenant, ils peuvent survivre. Ils n'ont plus besoin de chercher forcément l'aventure à l'extérieur. Ils peuvent rester chez eux. Et nous savons, avec les études que nous avons réalisées, une hausse de la faim de 1% conduit à une hausse de la migration de 2%.
Après le Mali, le directeur exécutif du PAM a mis le cap sur le Niger. Bandiagara, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Lutte anticorruption en Afrique. Pendant 5 jours à Abuja, des représentants des pays du Commonwealth en Afrique ont discuté des questions liées au combat contre le fléau sur le continent. Les participants ont également parlé des liens entre les agences de lutte anticorruption et les agences de sécurité. Reportage du correspondant de VOA Afrique au Nigeria, Gilbert Tamba.
Pour bon nombre de participants, le recouvrement des biens semble s'améliorer. Mais la corruption demeure globalement un problème de taille sur le continent africain. Victor Bruno Paludi, le directeur général de la DCEC, l'agence de lutte anticorruption du Botswana.
Oui, je peux dire que beaucoup de pays en Afrique font des efforts, mais à différents niveaux. Et je pense que vous connaissez l'indice de perception de la corruption. Ce n'est pas très efficace, mais je pense que c'est un point de départ. Mon pays, par exemple, le Botswana, est parmi les 25 pays les plus corrompus. C'est une perception, comme je le dis, mais il y a d'autres pays qui ne sont pas nécessairement dans l'indice de perception.
Bien qu'elle soit la région la moins performante du monde, l'Afrique compte plusieurs pays qui ont régulièrement marqué des points contre la corruption. Paul Kenoa, directeur général de la Commission de lutte contre la corruption de la Namibie.
Oui, les obstacles seront toujours là et ils sont là. Vous voyez, lorsque vous essayez de combattre la corruption va vous combattre. En revanche, cela est une chose parce que, quel que soit l'engagement des autorités, il y a toujours certains éléments qui ne coopèrent pas, parce que vous allez trouver qu'il y a ceux qui bénéficient des institutions de corruption.
La plupart des pays africains ont mis en place des lois et institutions de lutte contre la corruption, mais il y a des obstacles qui empêchent certaines agences sur le continent d'appliquer ces lois. Il faut aussi changer la perception selon laquelle l'Afrique est le continent le plus corrompu, comme le précise Ben Omoa King Oguntala, fondateur de Security in Africa, une fondation basée en Grande-Bretagne.
Oui, ça commence en mettant fin à la perception selon laquelle l'Afrique est le continent le plus corrompu au monde. Parce qu'il y a deux parties qui sont impliquées dans la corruption, ceux qui volent l'argent et ceux qui reçoivent cet argent volé. Les deux sont en couple et dans notre définition, nous disons que si les banques au niveau de la communauté internationale n'acceptent pas de l'argent volé, donc nous avons une bonne chance.
Au Nigeria, la commission qui est chargée de lutter contre la corruption a un nouveau siège à Abuja. La construction de l'édifice a coûté 24 milliards de naira, soit un peu plus de 56 millions d'euros, alors que le bilan du président nigérien Muhammadu Buhari dans la lutte contre la corruption reste très controversé dans le pays le plus peuplé d'Afrique. La rencontre a connu la participation de leaders comme l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki et le prix Nobel de littérature Wole Soyinka. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laissez vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Mountou de RM Show sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme de la bonne musique, notre sujet de cette semaine, la question que vous avez posée. Les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect aux adultes et pensent avoir toujours raison. Partagez-vous cette opinion. Développez votre point de vue en le justifiant à l'aide des arguments. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 37 31. Contactez-moi aussi sur ma page Facebook Roger Mountou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel. C'est sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.